Bienvenue à vous toutes et tous. Je suis ravie donc de pouvoir vous présenter deux grands reporters pour le débat de cet après-midi qui portent sur le thème du grand reportage et du roman, quand les journalistes écrivent l'histoire avec un grand H. Je vous présente, donc, ils sont tous les deux à ma droite, mais John Swain, qui nous vient de Londres, grand reporter, écrivain, et notamment du livre culte River of Time, dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'il a inspiré notamment le film Killing Fields, La déchirure, donc, qui a couvert de très très nombreux conflits pendant de très nombreuses années, d'abord pour l'agence France Presse et notamment dernièrement pour le Sunday Times, et qui a notamment couvert, c'était un des rares journalistes présents au moment de la chute de Phnom Penh, et donc qui a rédigé beaucoup de grands reportages, mais aussi écrit des livres et qui vient de publier Mémoire de guerre. Je vous présente à mon autre droite Olivier Weber, qui est également journaliste, grand reporter, écrivain. Vous écrivez aussi des films, enfin vous réalisez également des documentaires et des films. Vous êtes aussi un ancien correspondant de guerre, notamment pour le Sunday Times, donc, mais avec un certain nombre d'années d'écart. Et vous avez couvert de très très nombreux conflits également, et parfois les mêmes zones que John Swain. Donc il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au sujet. Voilà, comment est-ce qu'on passe du journalisme au roman et à l'histoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien finalement plus ténu qu'on ne pourrait le penser entre les deux, si on pense à quelques grands journalistes, écrivains et également diplomates comme par exemple Romain Gary, qui a effectivement fait les deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Olivier Weber, vous avez aussi été ambassadeur de France itinérant entre 2008 et 2013, chargé de la traite des êtres humains auprès des Nations Unies. Donc vous avez aussi un rôle de diplomate. Donc on pourra revenir dessus tout à l'heure. Je n'ai pas cité tous les livres que vous avez écrits tous les deux, parce qu'il y en a de très nombreux, mais je vous invite à les lire. Ma première question, pour lancer le débat, disons, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'aborder, nous n'avons qu'une heure malheureusement, ce serait pour moi de vous poser une question toute simple, c'est-à-dire au tout début de votre carrière de grand reporter, quelle a été l'étincelle qui a fait que vous êtes parti et comment l'envie, malgré des conflits extraordinairement à la fois dangereux et évidemment forcément très, très violents, qui vous a donné envie de continuer? Alors, si je vous permettez, je passe la parole à John.
Ah, vous avez un micro aussi.
Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi si je parle mal français, mais je vais faire un effort. Et voilà.
Vous parlez très très bien le français. Il faut peut-être juste mettre votre micro
plus,
comme
plus
ça.
Plus près, plus près.
Comme ça, voilà.
Ah, c'est bon.
Parfait.
D'accord. Je vais continuer. Alors, moi, j'ai commencé à l'agence France Presse à Paris, mais je voudrais absolument couvrir la guerre en Indochine, au Vietnam et au Cambodge. Enfin, le Vietnam et puis le Cambodge a commencé après. Parce que c'était le grand événement du moment, la guerre américaine au Vietnam. Et en plus, étant jeune, je voudrais voir le conflit, voir une guerre et savoir qu'est-ce que c'était, pas comme un soldat, mais comme journaliste, et écrivait sur les effets sur les pays et les gens qui habitaient là. Donc j'ai lutté vraiment très fort pour aller, et puis l'agence France Presse a refusé de m'aller, laisser moi partir parce que j'étais trop jeune. Et puis la guerre au Cambodge a commencé avec la chute de Sihanouk, et il m'avait envoyé pour 3 mois, et puis j'ai resté 5 ans. Parce que j'ai tombé amoureuse de ces pays et les peuples dedans qui habitaient là. Du point de vue du risque qu'on prend et les dangers et tout ça, c'était une partie, c'est devenu une partie de la vie. Donc, je savais que c'était dangereux. Je savais que mais étant jeune, je pensais que ça passe à des autres plutôt que moi au début. Et ça a pris quelques années en effet. De réaliser qu'on était mortel, quoi. depuis le fait que j'ai perdu beaucoup de camarades dans cette guerre au Cambodge. On a perdu 23 journalistes dans 2 mois, parmi un presque de 60 personnes. Donc un tiers de nous a été tué par les Khmer Rouges au début de la guerre. Voilà.
Pour revenir ensuite, je vous passe la... Vous avez un micro ? Oui.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je ne suis pas devenu reporter de guerre, je suis devenu d'abord grand reporter. Et c'était un vieux rêve, en fait, que d'aller faire du reportage. Et pour moi, le reportage commence non pas au bout du monde, ça commence dans nos banlieues, dans nos villes, dans les arrière-boutiques et les cours des restaurants. Et c'est d'aller voir les autres, en fait, c'est d'aller voir l'humain. Et comme je m'occupais d'abord d'affaires économiques et ensuite d'affaires internationales, quand vous vous spécialisez, entre guillemets, sur une zone, ça peut être l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, de temps à autre, vous croisez des guerres. Et de plus en plus, évidemment, c'est un truisme, hein, c'est une banalité, mais si vous êtes, par exemple sur le Moyen-Orient, ben forcément, regardez aujourd'hui, il y a 4 ou 5 théâtres de guerre. Ça va de l'Irak au Yémen, à la Libye, etc., à la Syrie, bien sûr. Et je me rends encore actuellement dans ces zones. Mais voilà, je crois qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Ce n'est pas le goût du risque, pas du tout. C'est plutôt l'envie d'aller voir les autres et de « to report », c'est-à-dire de rapporter des histoires, de rapporter les petites histoires, parce que pour moi, humainement, c'est très important que de rapporter la parole des victimes. Il n'y a pas que des victimes, il y a aussi des gens de la vie de tous les jours. Et j'ai toujours été fasciné par ce magma d'humanité, dans la guerre, mais bien sûr aussi en dehors de la guerre, parce qu'il y a des choses incroyables à voir. Et je crois que le journalisme permet de vivre ses vies par procuration. Moi, ça m'a toujours intéressé que d'aller voir. Aujourd'hui, je vis de ma plume. Hein, je suis plutôt à Saint-Germain-des-Prés, mais j'ai besoin, comme je le disais tout à l'heure à Catherine, d'aller aussi sur le terrain pour sentir l'humeur du monde et puis pour respirer un petit peu avec ces gens-là, ce qui se passe au bout de la planète. Et honnêtement, au bout d'un certain temps, on commence à comprendre les pulsions du monde. On comprend aussi les erreurs de certains pays qui n'ont pas hésité, qui n'hésitent pas à renouveler leurs interventionnismes aigus. Et c'est dramatique. Regardez ce qui se passe en Irak avec l'intervention de 2003. Elle devait au départ démocratiser le Moyen-Orient et puis isoler l'Iran. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'était une guerre qui était décidée par le président Bush contre la décision d'ailleurs de la CIA. Et aujourd'hui, on ne mesure pas encore, au bout d'un million de morts, les conséquences sur l'ensemble du Moyen-Orient qui était entièrement déstabilisé. Donc voilà, quand on est un petit peu au cœur de ce maelstrom, et encore une fois, je dis ça très humblement, c'est qu'on est au courant, parce qu'on voit des tas de gens, on voit des dizaines, des centaines de personnes pour un reportage, on se fait une idée en quelque sorte, on est au-dessus de la mêlée, alors c'est pas une élévation, on va dire, hiérarchique, c'est simplement, voilà, on écoute les uns les autres, on se fait une idée, et on arrive à comprendre justement ces pulsions du monde, et puis aussi ce qui se passe au niveau des relations internationales. Alors pour ma part, les premiers conflits que j'ai couverts, c'était donc pour Libération et quelques autres journaux, des conflits en Afrique, Afrique de l'Est, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, le Sahara occidental, du côté ouest, puis après c'était l'Afghanistan et la Syrie, l'Irak.
Je vois que vous avez quelque chose à ajouter.
Je parle beaucoup de l'Indochine, qui était pour moi la guerre la plus importante dans ma vie. J'ai couvert des autres conflits. Mais ça m'avait marqué à cause de ma jeunesse et les choses que j'ai vues ça, là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans un sens, on écrit l'histoire quand on est journaliste, mais c'est différent d'un historien parce qu'on écrit contre le monde. C'est, à cette époque, on faisait le reportage, on partait la journée pour quelques jours, et puis nos dépêches étaient difficiles d'envoyer à Paris ou à Londres. Quelquefois, ça prend 24 heures ou plus d'arriver. Et puis déjà, les événements qu'on écrit est dépassé. Mais maintenant, le journalisme maintenant, c'est très différent parce que tout est diffusé instantanément. Ce que les journalistes voient aujourd'hui et dans ce sens, l'histoire, c'est un peu différent.
Après, vous n'avez pas forcément toujours publié, un petit peu préparé cette rencontre, vous n'avez pas toujours publié immédiatement ce que vous écriviez, donc vous teniez un carnet. Je pense notamment quand vous étiez au Cambodge, au Vietnam, vous me disiez, vous écriviez en fait heure par heure ou tous les jours ce qu'il se passait, mais pas forcément pour le publier immédiatement. parce que par manque de... Enfin, à la fois pour les journaux, vous racontiez des choses, mais pas tout. Et ensuite, vous avez repris ces séries de carnets avec du recul.
Oui, absolument. J'étais avec les autres journalistes et les étrangers détenus dans l'ambassade de France à partir de la chute de Phnom Penh en 17 avril 1975 et pendant l'évacuation de la ville par les Khmer Rouges. Et j'ai vu tout ça avec mes yeux, mais on ne pouvait pas diffuser parce qu'il n'y avait pas de droit. L'ambassade était dans un, presque assiégée dans un sens par les Khmer Rouges. Donc, on était là pendant presque une quinzaine de jours, 11 jours, je crois. J'ai gardé un carnet de tout ce qui se passait. J'ai parlé avec les gens qui étaient à l'ambassade, les Français qui habitaient à Phnom Penh, qui cherchaient le refuge dans l'ambassade, les pauvres Cambodgiens qui pensaient que la France va les sauver. Donc, ils ont sauté le mur de l'ambassade pour échapper les Khmer Rouges et rester à l'ambassade. Et les Vietnamiens du civil du Phnom Penh, les Montagnards, les Cambodgiens qui étaient mariés avec les Français et les Françaises, tout ça, c'était un mélange des gens et puis les gens de l'Asie Unie. Donc c'était très complexe et très, très intéressant du point de vue humain parce que là, c'était un moment où on voit vraiment comment les gens, dans les difficultés énormes, avec le danger au dehors et puis peut-être à l'intérieur, se comportent entre eux. Donc, vers la fin, les Khmer Rouges ont demandé que tous les Cambodgiens partaient. L'ambassade, le consul de France ne pouvait pas les garder. Et ils étaient expulsés de l'ambassade. Ils sont partis avec les Montagnards. Donc, il y avait des scènes horrifiques d'une dame, je me souviens très bien, qui, sachant qu'elle devrait partir, mais elle avait un bébé, un nouveau-né. Elle voudrait laisser son bébé à une famille française pour le garder, et puis elle est partie toute seule. Toutes ces choses, c'était quelque chose de très chaud. J'ai écrit ça pour mon journal après que j'ai quitté l'ambassade, après que je suis arrivé en Thaïlande. Quand je l'ai écrit mon livre, une vingtaine d'années après, j'ai gardé les mêmes mots. Parce que c'était, je ne pouvais pas améliorer ce que j'écris parce que c'était vivant, quoi.
Et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre évidemment du témoignage, mais quelque chose qui va aussi au-delà du témoignage, Olivier Weber, parce que c'est là où on passe peut-être la frontière entre le grand reportage, le roman, le récit de voyage, le roman, et également finalement les pratiquement une version, un apport historique à la version des faits. Les lignes sont ténues.
Oui, enfin moi je le revendique. Hein. Je pense que le roman, en tout cas pour ce que j'ai pu lire en tant que lecteur sur des zones de conflit, mais pas que, ça peut être aussi sur la mondialisation, sur les flux. Je suis passionné par ce qu'on appelle les flux, donc la vitesse, qui est un agrégat en fait des relations internationales, la vitesse de déplacement des personnes, des masses financières. Et regardez ce qui s'est passé avec la crise économique de 2008. Les détonateurs, c'était les subprimes, et on était vraiment tous surpris justement de ce détonateur qui a déclenché une guerre économique mondiale, on va dire, une crise économique mondiale, pardon, et que sur laquelle donc les institutions étaient totalement dépassées. On se croit, je pense tous, vous et moi, John et moi, vous tous, surinformés, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations, puis d'un coup, on se rend compte qu'on est souvent sous-informés, parce que dans le magma d'informations qui défile dans le monde, il faut savoir, enfin, c'est pas qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le temps de tout repérer. Et pour revenir à votre question, je pense que oui, quelquefois, le roman, l'imaginé ou l'imaginaire, permettent mieux de comprendre une situation donnée que du document et du réel. Et pour revenir au reportage de guerre, il m'est arrivé sur la vingtaine de conflits que j'ai pu couvrir d'être dans des situations où je me suis demandé après, encore aujourd'hui, donc des mois après ou des années après, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Enfin, est-ce que j'ai vu ça? Des scènes les plus barbares, mais aussi des scénarios bâtis par les services secrets, par des États en guerre, etc. On s'est dit, mais c'est incroyable les manipulations qu'il y a. Alors, je vous donne un seul exemple, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan des talibans, j'ai passé beaucoup de temps, parce que je m'étais enfermé avec eux. J'avais pu avoir un sauf-conduit, un visa pour vivre avec les talibans. Et pendant plusieurs mois, donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le faucon afghan ». Et le faucon, donc, c'est un peu le prétexte pour aller rechercher un volatile, mais en fait, un oiseau. Donc, mais en fait, c'est... je voulais vraiment voir comment vivaient les Afghans et les talibans en particulier. Et je suis tombé dans le royaume de la plus grande hypocrisie, et non pas le royaume de la pureté religieuse dont se revendiquaient les talibans. Et c'était une sorte de Moyen-Âge, avec d'ailleurs une certaine rationalité quand même, parce que les talibans, aussi barbares soient-ils, ne veulent pas 1 million de morts à Kaboul, ou 1 million de morts à Bagdad, ou 1 million de morts à Damas, alors que Daesh Khorasan, qui est le Daesh local, et Daesh en général, et Al-Qaïda aussi, tenus par des gens beaucoup plus éduqués que les talibans, qui ont souvent fait les mêmes études que nous, quelquefois d'ailleurs aux États-Unis, en Égypte et même en France, sont dans l'irrationalité la plus totale et la barbarie la plus totale, y compris à l'égard des femmes, des enfants, de l'éducation et bien sûr des humanitaires. Donc, et là, je me dis que ben, le roman permet un petit peu d'expliquer tout ça et de s'emparer du réel pour, à travers des portraits, à travers des personnages, à travers des scènes, essayer de raconter ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des frontières assez floues entre le reportage et le roman. Et c'est vrai qu'on a tous eu des grands frères. Hein. Je pense que John aussi a lu, parce qu'il le dit dans son livre, Conrad. Mais il y a eu aussi Jack London, il y a eu Malaparte, Vassili Grossman, John Steinbeck, qui ont tous été reporters de guerre. Hemingway. Et qui à un moment se disent, mais moi, je ne veux pas revenir à New York ou à Paris ou à Madrid ou à Londres avec simplement 3-4 pages. Ça ne suffit pas. Je ne peux pas raconter la guerre. Alors aujourd'hui, ça serait la Syrie, ça serait l'Afghanistan, ça serait l'Irak. Ça ne suffit pas. Et il y a un moment où on bascule et là, bah, ça donne des très beau roman. Et je crois que, regardez, sur la guerre d'Espagne, qui date des années 1936 à 1939, il y a un super reportage qui est un roman qui s'appelle L'Espoir de Malraux. Malraux a fait la guerre, lui, c'était plus qu'un correspondant de guerre, c'était vraiment un combattant des brigades internationales. Et voilà, ça, c'est un exemple où, justement, le roman peut s'emparer du réel. Alors, je suis vraiment ravi de faire le débat aujourd'hui avec John, qui est quelqu'un que j'admire. Et j'ai couvert cette région quelques années après lui. Mais j'ai lu beaucoup de romans américains, dont Michael Herr, Dispatches, qui s'appelle en français Putain de mort, d'un correspondant de guerre américain qui va vivre comme un soldat, qui va presque se battre comme un soldat américain. Et de l'autre côté, j'ai trouvé un roman, un peu par hasard, d'un Bodoy, c'est-à-dire un soldat du Viet Cong, donc vietnamien, qui se battait contre les Américains, qui s'appelle... Le chagrin de la guerre. Je ne sais pas si tu connais ça. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Je l'ai lu en français, donc de Baounine. Et c'est extraordinaire parce que c'est... alors, c'est un roman. Lui raconte qu'il est dans la forêt, etc., et qu'il retrouve ses copains, donc Bodoy, les miliciens, les combattants du Viet Cong, dans des sacs de plastique, parce qu'à un moment, on ne pouvait pas les enterrer, etc. Et voilà, ça donne un roman très fort qui, pour moi, est plus fort qu'un reportage ou qu'un document. Et ça permet de parler de la guerre à travers, évidemment, de ce qu'on a vécu. Et je crois qu'un roman... et même de l'autofiction, est évidemment toujours basée sur ce qu'on a vécu. Et à partir de là, donc voilà, ce sont des allers-retours entre le réel et la fiction et le réel.
Et John, sur cette question, sur cette question du passage au roman, qui est aussi un témoignage.
Oui, absolument. C'est absolument sûr que je suis tout à fait d'accord avec Olivier que... les romans sont basés très souvent, les romans de guerre et tout ça sont basés sur les événements, une partie des événements que les journalistes, s'ils sont écrits par les journalistes, sont vécus. Et ça sont beaucoup, beaucoup de valeurs. Et quelquefois, il se trouve une vérité dedans qu'un reportage sur place n'a pas du tout, parce que le reportage sur place, c'est basé sur un moment qui est peut-être très important, mais si on fait une fiction sur ça, on peut inclure beaucoup de choses qui sont vraies, mais aussi vraies, mais ce n'était pas dans le reportage. Parce que je crois que les reportages, c'est plus sélectif. Parce que là, par exemple, pour moi, quand j'écrivais pour l'agence France-Presse, par exemple, à Cambodge et au Vietnam, donc on écrivait 600 mots, 900 mots. Donc il fallait vraiment être très sélectif de ce qu'on écrit. pour le Sunday Times, quelquefois, souvent plus, mais quand même, il faut être sélectif, il faut choisir aussi. Dans le sens qu'un historien cherche des choses dans les archives et sélectionne des choses dans les archives pour faire une histoire sur la guerre de Vietnam ou quelque chose. Aussi, le journaliste, il sélectionne les témoignages qu'il a pour faire un reportage en particulier sur ce sujet.
Tout à fait. Je voulais juste vous poser aussi la question, puisque tout à l'heure, j'ai cité Romain Gary, qui a donc été écrivain, mais aussi diplomate et journaliste. Et donc, il disait que quand on est diplomate, au bout d'un certain temps, on représente donc l'État et donc on ne s'appartient plus à soi-même. Et vous avez été aussi diplomate pendant 5 ans à peu près. Donc là, vous avez quitté la posture de journaliste. Alors, comment ça s'est passé pour vous ?
Si on m'a fait cette proposition donc pour être ambassadeur des droits de l'homme, donc ça ne se refuse pas. Moi, je suis un enfant de la République, donc j'ai voulu vraiment aller aussi voir ce qui se passait de ce côté-là. Et puis, je suis fasciné par ce qu'on peut voir aussi sur le terrain depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle la montée en puissance des acteurs non étatiques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez les États d'un côté, les OI, organisations internationales de haute, hein, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU. Puis après, les acteurs non étatiques. Alors, il y en a deux. Un qui est un spectre qui est plutôt négatif, c'est tout ce qui est crime organisé, donc la mafia, on va dire, la mafia internationale. Et puis, deuxièmement, les ONG, donc la société civile. Et je suis fasciné de voir cette croissance des ONG, dans le Sud en particulier. Là, j'étais au Mexique encore il y a peu de temps, Mauritanie avant. Bientôt en Syrie, il y a une présence incroyable de petites ONG, donc de petites associations humanitaires, tenues très souvent d'ailleurs par des femmes, et qui refont le monde. Franchement, j'ai bien vu aussi au niveau des relations internationales aux Nations Unies, ils sont considérés comme des acteurs maintenant de la scène internationale. Alors c'est d'autant plus dangereux parce qu'ils dénoncent aussi la corruption. Et ils sont ciblés en tant que tels par les États dictatoriaux, mais aussi par des mafias et par des groupes armés en particulier. Et voilà, donc j'ai voulu défendre ça. Mais je crois que quand on a fait ce métier d'être grand reporter, même après quand on est écrivain, ou diplomate, on a toujours ça en tête. On était 3 ou 4 ambassadeurs extérieurs. Il y avait Jean-Christophe Ruffin qui était à Dakar, Daniel Rondeau qui était à Malte et après à l'UNESCO, et moi itinérant sur les droits de l'homme. Bon, on a gardé un petit peu notre travers d'écrivain ou de journaliste ou de grand reporter, parce qu'on aime ça, on aime les gens, on aime aller aussi sur le terrain. Alors moi, dès que je pouvais, je m'échappais des conclaves des Nations Unies ou des assemblées générales ou des conventions pour aller sur le terrain du Mexique au Tadjikistan. C'était une trentaine de missions de par le monde pour aller voir justement des petits paysans, des ouvriers, des militants de la société civile, etc. Et là, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai pas eu le temps d'écrire, mais ça ressort après. Et ça ressort aussi sous la forme de roman. Alors, c'est un peu moins dangereux quand même que le métier de reporter. Parce que quand on est reporter, on prend beaucoup de risques. Je crois que John et moi, on en a pris beaucoup, hein, que ce soit chez les Khmers Rouges ou ailleurs. Et ce sont des risques qu'on maîtrise en partie, mais pas totalement, parce qu'on fait très attention sur les trajets, qui on voit, à quelle heure, est-ce qu'il y a des changements de rendez-vous, surtout dans les villes dangereuses comme Kaboul, Bagdad, Damas ou Karachi, qui est la plus grande ville du Pakistan, ou le Mexique, où je me suis rendu, où on était avec mon équipe menacé de mort 3 fois par les cartels de la drogue du Sinaloa. Et quand on est menacé 3 fois, ben même une fois, ça suffit. Mais voilà, on ne maîtrise pas tout. Et après, il y a une volatilité du risque qui fait que voilà, le danger existe vraiment. Et il faut faire attention, parce que quand on est grand reporter, on est à la fois sa propre agence d'information, on est sa propre agence de voyage, sa propre agence de sécurité. Donc, il faut être tout le temps sur ses gardes. C'est un très beau métier. Et en même temps, il faut se méfier de tout le monde parce que voilà, il y a beaucoup de kidnapping, il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup d'assassinats ciblés. C'est pas un accident, c'est pas des balles perdues ou des obus qui tombent sur un champ de bataille. C'est ça un peu, mais c'est beaucoup des assassinats ciblés de journalistes, de reporters qui sont menacés en tant que tels parce qu'ils rapportent l'information.
Vous me disiez c'est important de continuer à avoir peur. C'était vous qui me le disiez en préparant que c'était important de garder cette peur et de ne pas devenir une tête brûlée.
Oui, oui, la peur, elle est cognitive, elle est bornante, elle est limitative parce que honnêtement, au bout d'un certain nombre d'années, comme un médecin humanitaire qui va aller travailler pour Médecins Sans Frontières au fin fond de l'Afghanistan ou ailleurs, on sait faire. C'est vrai qu'on sait faire, etc. On sait comment aller l'autre côté de cette place où il y a une tranchée, où il faut contourner, il faut aller voir un chef de guerre, etc. Mais il faut avoir peur parce que la peur, elle vous évite de faire des erreurs. Et très souvent, j'ai vu autour de moi les amis, les confrères irakiens, afghans, cambodgiens ou autres qui ont été tués ou enlevés. C'est parce qu'ils ont fait. Et moi-même, quand ça s'est mal passé, c'est qu'on faisait des erreurs. Donc il faut être confiant, mais pas trop, je dirais. Et voilà, je crois aussi que ça fait partie du métier que d'avoir une sorte d'appréhension, parce que ça vous rend très sensible au monde environnant et justement aux gens qui vous accompagnent. Et moi, ma ligne rouge, c'est de surtout pas mettre en danger la vie d'autrui.
Merci, John. J'ai envie de vous poser une question qui peut-être taraude un certain nombre de personnes dans la salle, puisque c'est dans la présentation qui est faite de ce débat. Donc, vous avez été capturé donc au moment où Phnom Penh est tombé aux mains des Khmers rouges, et vous avez échappé de peu à l'exécution, notamment grâce à un interprète cambodgien du New York Times. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Et j'ai à nouveau cette question sur la peur. Vous aviez aussi parlé de fascination quand vous étiez jeune.
Oui, quand j'étais, j'avais une fascination de confronter la mort, que je trouve c'est assez naturel quand on est jeune homme, quoi. Pas pour tout le monde, mais pour moi, de toute façon. Et j'étais tellement attaché au Cambodge que quand j'étais là au début de la guerre, et quand je savais que Phnom Penh allait tomber en avril 1975, j'étais à Saigon à ce moment-là, mais j'ai pris le dernier avion pour aller à Phnom Penh parce que je ne pouvais pas me voir dans le miroir si je n'ai pas essayé d'être là à la fin de quelque chose, d'un pays où j'étais le début d'une catastrophe qui était la guerre de Cambodge. Donc j'ai arrivé à Phnom Penh quelques jours avant la chute de Phnom Penh dans le dernier avion qui est de Cambodge. Et l'avion, en principe, ne devrait pas décoller, mais c'était un pilote américain qui a pris l'avion de l'aéroport de Bangkok pour retourner à Phnom Penh pour chercher sa petite amie cambodgienne. Donc on est décollé, c'était avec trois moteurs de quatre parce qu'ils ne marchaient pas. Donc on fait un voyage à Rasmot à Phnom Penh, et puis on arrivait à Pochentong, l'aéroport de Phnom Penh, sous des bombardements de roquettes, et puis l'avion était assiégé par les gens qui voulaient échapper. Moi, je suis sorti et je suis allé en ville, et puis j'ai suivi les événements, les dernières heures de la République Khmer, et la chute de Phnom Penh. Et le jour de la chute de Phnom Penh, le 17 avril, j'étais avec quelques collègues, un Américain, Sidney Shanberg du New York Times, photographe Al Rokoff, américain, et l'interprète de Sydney, Dit Pran, un Cambodgien, qui était un type formidable, que je voudrais saluer, il est mort maintenant. Mais on est allé le matin de la chute de Phnom Penh visiter, les Khmer Rouges étaient en train d'arriver dans la ville, mais on est allé visiter l'hôpital militaire de Phnom Penh, près de Katmalaya, pour voir ce qui se passait dedans. Et là, on était confronté par un cauchemar parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas des infirmières, il n'y avait personne sauf les blessés. Nombreux, il y avait 2000 dans l'hôpital, et ils arrivaient, les familles les apportaient à l'hôpital pour être soignés, mais ils n'avaient pas le soin, donc les couloirs coulaient de la sang et tombaient dans l'ascenseur. C'était horrifique. Donc on a vu ça, et puis voilà, on est sorti, et au moment où on est sorti de l'hôpital, il y avait les jeunes Khmer Rouges qui sont arrivés, donc ils ont vu les Blancs. Donc, ils pensaient, enfin, ils étaient contre les Blancs, contre les étrangers de tous. Et puis, on était entouré par ces jeunes soldats qui n'étaient presque pas plus grands que le fusil, l'âge de 12 ans à peu près, avec un chef. Et on était très menacés. On allait peut-être être exécutés là, mais notre interprète, Pran, a commencé de discuter avec ces jeunes Khmer Rouges et leur chef, disons d'abord qu'on n'était pas américain, qui était important, depuis qu'il y avait deux de nous qui étaient américains, et on était journalistes et on est venu voir la libération de Phnom Penh. Mais depuis ça, on était mis dans un blindé et pour être amené vers le fleuve de Mekong pour être exécuté. Et c'était Pran, avec un courage inoubliable, qui a insisté qu'il entre dans le blindé avec nous parce qu'il savait qu'on ne parlait pas le cambodgien, donc on serait complètement perdu sans lui. Donc il est entré avec nous, et puis le blindé est allé vers le fleuve, est arrivé, et puis la porte derrière était ouverte, et puis il avait les Khmer Rouges là avec les fusils, et ils ont demandé qu'on sorte. On savait qu'on allait être flingué sur le bord de Mekong. Mais la première personne qui a sorti, c'était Pran, et qui commençait à parler avec les Khmer Rouges. Et petit par petit, l'atmosphère très menaçante est baissée. Et puis finalement, on s'est relâché, et puis on est allé à l'ambassade de France avec les autres étrangers. Et là, Pran est entré avec nous, et puis quand tous les Cambodgiens de l'ambassade étaient obligés de sortir, quitter, moi j'ai essayé de garder Pran, nous avons essayé de garder Pran, j'avais un deuxième passeport britannique, donc on a changé le nom. Et puis, après, on avait une photo, j'ai coupé ma photo et mis la photo de Pran, qui était de bonne taille. J'ai changé le nom, et puis on allait passer Pran comme un Népalais, parce qu'il avait l'air un peu Népalais, je pouvais être peut-être. Mais voilà, c'était pas très bien fait, en effet, mais c'était faire la fortune, quoi. Et voilà, les Français de l'ambassade ont pris tous nos passeports, puis ils devraient montrer ça, des passeports à Khmer Rouge. Et c'était très visible que c'était leur passeport était fausse, quoi. Donc, il n'y avait pas de choix à prendre. Donc, il a décidé de partir tout seul. Il y avait des autres Cambodgiens qui partaient. Ils ne voulaient pas être les derniers de sortir de l'ambassade parce qu'ils seraient très visés par les Khmer Rouge. Il a décidé de partir. C'était un moment très triste parce qu'il a sauvé notre vie. On ne pensait pas qu'on pouvait le sauver. Mais voilà, il est sorti. Et puis, on n'a pas revu. On a revu 4 ans après. Il a survécu le Killing Fields. Il est sorti en Thaïlande à la fin de 78.
Vous voulez enchaîner sur... peut-être des moments aussi marquants dans votre existence, peut-être pas du même type, mais voilà, que vous avez vécu sur le terrain.
Oui, c'est pour ma part, surtout le Moyen-Orient, hein, c'est en Afghanistan, en Irak, au Kurdistan ou ailleurs, en Algérie aussi, quand j'ai couvert il y a quelques années, donc la guerre du GIA, donc c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique maintenant. C'est comment, évidemment, on se retrouve tout d'un coup face à des miliciens ou des islamistes. Et voilà, bon, un seul exemple, hein, au fin fond de Kaboul, un jeune chef de guerre de 20 ans qui voulait me tuer. Et j'étais dans le quartier chiite de Kaboul. Kaboul était assez bien bombardé, d'ailleurs. Massoud était de l'autre côté, le commandant Massoud, qui était le chef anti-islamiste. Et voilà, il voulait me tuer. Alors, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, mais tu vas le regretter. Il me dit, pourquoi je vais le regretter? Je lui dis, parce que je ne suis pas venu pour toi. Ah bon? Non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour voir ton chef. D'ailleurs, je le vois demain matin, ton chef. C'était du bluff totalement. Je sais à peine comment s'appelait son chef. Et puis, deuxièmement, je viens ici pour comprendre ton pays, l'Afghanistan. Donc, ta petite vie, ça ne m'intéresse pas, mais si tu veux me tuer, tu me tues. Alors, évidemment, j'avais très, très peur. Encore une fois, je crois que c'est très important d'avoir peur. Mais voilà, je pense qu'on a tous, non pas l'adrénaline, mais à un moment, un ressort de rationalité qui fait que, bon, voilà, on arrive à trouver la petite porte. L'autre fois, j'étais avec en Afghanistan, chez un autre chef de guerre taliban qui s'appelle Dost Mohammad et qui était le gouverneur, donc ça s'appelle le Wali de Razni, donc un chef taliban. Et le chef taliban donc me disait, alors qu'on était en train de dîner avec une trentaine de personnes et lui avec 4 hommes du garde du corps derrière lui avec des kalachnikovs, il me disait, qu'est-ce qui se passerait maintenant si tu mourais? Et alors, heureusement, j'étais en train de manger un peu de kebab, sur le tapis, il y avait des plats partout, de la salade, etc. Et puis je dis, écoutez, ça ne vous dérange pas, monsieur le gouverneur, si je peux finir ma bouchée. Oui, prends ton temps, réfléchis. Qu'est-ce qui se passe si tu vas mourir maintenant, Olivier? Et il s'est passé encore quelques secondes. J'ai trouvé en 10 secondes la réponse. Et je lui dis, en voyant la table, donc c'est le tapis, faisait 30 mètres de long. Je ne savais pas que vous aimiez autant les Américains. Il me dit, comment ça, les Américains, on les déteste? Ben, si, vous les aimez, puisque ce que je vois là au bout du tapis, c'est du Pepsi-Cola. Effectivement, il y avait du Pepsi-Cola qui était sur la table. Alors, pour les talibans, évidemment, dès qu'on prononçait le mot américain, c'était totalement tabou. Et là, j'ai trouvé la parade. Je dis, évidemment, si je venais à mourir maintenant, monsieur le gouverneur, j'irais au paradis comme vous. Si vous mouriez maintenant, vous irez aussi au paradis. Il s'est retourné Il a fait baisser les Kalachnikovs. Et voilà, ce sont des moments de grande tension. Alors, est-ce que c'est un jeu ?
On peut se dire, oui.
Est-ce que c'est une mise à l'épreuve ? Est-ce que c'est voilà, parce qu'on veut exécuter un journaliste ou un reporter ou un écrivain qui passe par là ? Mais alors, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des moments où il vaut mieux partir en courant ou presque. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'est une besace chance qui s'amenuise. Mais voilà, je crois qu'on on trouve quand même des ressorts comme ça un peu intimes. Alors, pour revenir au Cambodge, donc moi, j'ai couvert, non pas la guerre des Khmers Rouges, mais quelques années plus tard, la guérilla des Khmers Rouges, donc, qui était au pouvoir de 75 à 79 et qui était dans les maquis. Donc, j'ai fait un livre sur eux qui s'appelle Les Impunis et deux documentaires, France 5 et France 2. Parce qu'en fait, je suis parti là-bas les voir et au dernier moment, j'ai demandé à un de mes amis cambodgiens qui a connu les camps de la mort de l'âge de 8 ans à 12 ans. C'est grosso modo l'histoire de Killing Fields aussi, de la déchirure vue du côté cambodgien, qui s'appelle Malay. Je lui ai dit, écoute, Malay, toi qui es cambodgien, donc viens, tu vas me servir de fixeur. Il habite en banlieue parisienne. Il m'a dit, plus jamais je retournerai dans mon pays. Puis la veille, il m'a dit, non, moi je viens avec toi. Et puis la caméra, une fois qu'on était au fin fond des maquis, chez les anciens bourreaux, donc de Malay, puisqu'ils sont dans la montagne, les Khmers Rouges, la caméra s'est déplacée naturellement sur Malay. Encore une fois, qui a fui à l'âge de 12 ans avec son petit frère sur les épaules, qui s'est échappé des camps de la mort, les camps de la mort étant des villages en fait tenus par les Khmers Rouges, on mourait de faim, du paludisme, etc., etc. Ou de coups. Parce que les balles étaient trop chères, donc quelqu'un qui était déviant, il recevait des coups de pioche sur la tête ou des coups de barre de bois. Et la caméra s'est déplacée sur lui et c'était toute son émotion d'ancienne victime et de victime encore actuelle qui allait voir donc les bourreaux de sa famille, puisque à peu près 13 personnes de sa famille ont été tuées. Et j'en ai fait un livre parce que j'ai mis des années à l'écrire, parce que j'ai dit à Malay, c'est toi qui vas écrire un livre, ce qu'il a fait, qui s'appelle Une enfance en enfer, donc chez les Khmers Rouges. Et moi, ça s'appelle Les Impunis parce que ça m'a toujours fasciné, je dis ça avec beaucoup, beaucoup de précaution, que de voir que la connaissance avec un grand C, la culture, n'est pas synonyme de rationalité. Au contraire, là, j'étais dans la plus grande barbarie avec ces anciens Khmers Rouges, qui sont toujours dans des maquis informels, parce qu'ils ont négocié la paix avec Phnom Penh. Ils sont dans la prostitution, ils sont dans le trafic de rubis et dans les casinos clandestins. C'est quand même pas mal pour des Khmers Rouges qui avaient puni de peine de mort les relations sexuelles hors mariage, et puis qui avaient interdit, qui avaient aboli même la monnaie. Et je ne connais pas, je connais aucun mouvement politique digne de ce nom qui, une fois qu'il arrive au pouvoir, abolit la monnaie.
C'est là où la connaissance, les lumières, finalement, n'ont pas suffi.
Voilà, absolument.
Et certains ces chefs sont très éduqués.
Tout à fait.
Passés par l'université française. Ou...
Tout à fait. Et ces Khmers Rouges que j'ai retrouvés, que sont Pan, Yang Sari, etc., dans la montagne, sont des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait un doctorat à la Sorbonne. On peut retrouver la thèse exactement de Kyesong Pan, qui porte en germe la révolution de la terreur Khmer Rouge, qui a tué quand même 2 millions de Cambodgiens sur 7 millions de la population totale. Et donc, vous avez en face de vous des gens qui vous parlent de Marguerite Duras, qui vous parlent de Napoléon, qui vous parlent de Chateaubriand. Et en même temps, on est dans la barbarie la plus totale. Et ça, c'est, je peux vous dire, quand on est grand reporter ou écrivain, c'est éprouvant parce que, comme on dit, il faut dîner avec le diable avec une longue cuillère. Là, il faut une très, 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 très longue cuillère. Et c'est perturbant. Et j'ai vu la même chose avec, non pas les talibans, mais Daesh et Al-Qaïda. Avec des chefs d'Al-Qaïda qui sont quelquefois chirurgiens, qui sont quelquefois avocats, qui sont quelquefois ingénieurs ou économistes et qui sont devenus islamistes. Et il n'y a aucun dialogue possible, contrairement à d'autres islamistes tels que les talibans. Donc voilà, cette rationalité-là n'existe pas. C'est perturbant parce que quand on est grand reporter ou écrivain, évidemment, il faut être dans la proximité avec ces gens-là, poser des questions et en même temps, voilà, faut se dire comment va se dérouler l'interview, à partir de quel moment on va dire, mais au fait, vous avez tué 32 000 personnes ou 500 000, etc. Et évidemment, on met sa vie en danger. En même temps, il faut le faire quand même. Et ça, c'est perturbant aussi parce qu'on se dit que ce sont des gens extrêmement intelligents et qui véhiculent avec eux une invention de la barbarie. C'est le philosophe Merleau-Ponty qui disait que la cruauté est facile parce qu'elle est toujours à recommencer. Elle se renouvelle d'elle-même. Et là, vous avez en face de vous des barbares qui ont inventé la délation des parents par les enfants, qui ont inventé la terreur collective qui fait en sorte qu'on met en prison, enfin dans les camps de la mort, la moitié de la population cambodgienne, etc. etc. Et donc voilà, donc, je pense que la règle, c'est de partir avec quand même une sorte de règle graduée où vous avez à la fois de la candeur, pas de la naïveté, mais une sorte de fraîcheur, on va dire, pour être quand même voilà, intéressé par les gens qu'on va rencontrer, et essayer d'être tout le temps dans le renouvellement. Et en même temps, beaucoup de cynisme, parce que sinon, on ne tient pas le coup. C'est comme un médecin humanitaire qui va opérer des enfants à Bagdad ou ailleurs. S'il pense à ses enfants, il ne pourra pas opérer. Donc, il faut se blinder quelque part et se dire que c'est...
C'est pas forcément du cynisme.
C'est pas forcément du cynisme, oui. C'est peut-être se renforcer mentalement. Bon, je ne vous dis pas qu'on ne s'effondre pas quand on rentre dans nos capitales respectives, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, sur le terrain, il faut être assez distant avec ça. Et c'est important. Ouais.
John, sur ce...
Oui, je comprends bien, il faut être assez distant, mais quand même, il y a des moments que je trouve que les journalistes ne peuvent pas être vraiment distants. Il faut faire des choix, quelquefois, si on va à l'aide de quelqu'un ou si on fait le papier.
Et ça, c'est très...
Ou si on fait, oui. Risque de rater le deadline, quelque chose comme ça. Et c'est un peu compliqué, on n'est pas médecin, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais quand même, si on est confronté par quelqu'un civil qui est blessé. Et, moi, je l'ai fait. J'ai amené les gens dans ma voiture à Phnom Penh, au Cambodge, à l'hôpital. C'était quelque chose qu'il fallait absolument faire. J'étais à Phnom Penh en face d'un cinéma un jour, une soirée, et là il y a un boom dans le cinéma en face, et je sortis et puis il y avait un soldat cambodgien qui a jeté deux grenades dans le cinéma. Et donc, il y avait énormément... J'entre dedans, et puis les gens commencent à sortir, mais énormément de blessés. Les grenades sont explosées dans la salle. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient blessés dans la tête et tout ça. Ils étaient tués. Et là, il y avait une petite fille qui était très, très blessée. C'était instantanément parce qu'elle avait toujours la cacahuète entre ses dents. Je me souviens très bien. Avec un Américain, on l'a sorti, on l'a mis dans notre voiture, et je suis allé à l'hôpital. Et c'est bizarre à dire, je suis allé à l'hôpital près de 4 millions, je décrivais auparavant. Les médecins ont refusé de la prendre parce qu'ils ont dit que c'est un hôpital militaire. Donc on a traversé toute la ville pour chercher notre hôpital. On est arrivé à l'hôpital Khmer soviétique. Et là aussi, les médecins ne voulaient pas le prendre. Mais finalement, j'ai insisté. J'ai dit absolument, je ne quitte pas l'hôpital si tu prends cette fille. Si vous prenez pas cette fille, je restais là toute la nuit. J'ai pris la fille, mais je suis retourné la main, et la fille était morte. Mais quand même, c'était... Et puis, j'ai fait un papier pour l'agence France-Presse, et j'étais derrière la concurrence.
C'est un article.
Un article, un papier, oui, un article, excusez-moi. J'étais derrière la concurrence. Les autres agences de presse avec cet article, et j'ai reçu un télégramme. Il y avait un télégramme à cette époque d'un rédacteur en chef de France Presse à Paris, disant vous étiez en retard, mais voilà, courage, il a dit à la fin. C'était très français, j'aimais beaucoup.
C'est là où il y a évidemment une différence assez nette entre la posture du journaliste et du grand reporter et celle de l'historien. On n'écrit pas l'histoire tout à fait de la même façon, parce que là, on est toute cette question de l'objectivité, d'être partie prenante et éventuellement de s'engager parfois.
Oui, mais je crois que, comme dit John, on est d'abord des humains, donc c'est vrai que on met la main à la pâte, c'est comme en ethnologie. Vous avez l'ethnologie normative où l'ethnologue, au début de l'anthropologie, donc surtout du côté américain, avec Margaret Mead et Malinowski, était très distant. Après, il y a eu l'ethnologie participative. Maintenant, il y a une troisième phase, un troisième cycle, incarné par Philippe Descola, qui est le fils spirituel de Lévi-Strauss, qui dit mais non, il faut être chaman, il faut être soi-même croyant dans les croyances d'une population qu'on étudie pour la comprendre réellement. Ce qui, moi, ne me choque pas du tout, au contraire. Et par rapport à l'objectivité, je crois qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On est tous des sujets. Un historien, un scientifique est un sujet. Et surtout dans les sciences humaines, évidemment, qui ne sont pas exactes, l'histoire l'a démontré, c'est que quand elle est trop normative, elle est dangereuse, elle est soumise à une idéologie, marxiste ou autre. et au post-marxiste. Et quand on est grand reporter ou écrivain, quelque part, on est aussi historien. Et on a vu des livres incroyables écrits par des journalistes qu'on connaît. John citait tout à l'heure Lucien Baudard, qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt, le prix Interlier, qui était longtemps correspondant en Indochine. Et alors, il y avait le général français, général Salan, qui était le commandant des forces françaises en Indochine, donc au Vietnam, qui allait s'illustrer après lors des affaires algériennes, qui était un grand opiumane d'ailleurs, et qui disait de Lucien Baudard, qui était un très très bon journaliste, né en Chine, qui avait prédit la chute de l'empire colonial français en disant Mao arrive, par ricochet, les Français vont perdre en Indochine, donc en Algérie. Extraordinaire. Et Salan disait de Baudard, chez Baudard, rien n'est exact, mais tout est vrai. Et c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que Baudard, de temps en temps, il disait que la couleur de mon pull était peut-être rouge, mais sur le fond, il n'est pas bleu, et sur le fond, il avait raison. Et moi, le critère qui m'intéresse le plus dans le journalisme et dans le grand reportage, c'est l'objectivité, c'est l'honnêteté. Il faut être le plus honnête possible. Je ne sais pas si John sera d'accord avec moi. Je crois que c'est très important d'être honnête par rapport à un magnum de vérité au pluriel qu'on peut approcher. On n'arrive jamais à la vérité vraie. Et encore une fois, moi, je reviens au romanesque. Le romanesque, le roman, quelquefois, permet de mieux transcender cette réalité, de mieux la diluer, de mieux la comprendre, de mieux la percer, peut-être d'abandonner ses propres valeurs. Parce qu'évidemment, nous, on va aller dans un pays, y compris en tant qu'ethnologue, et on est porteur de valeurs qui sont sûrement les mêmes valeurs qu'on a, nous tous, ici, y compris de démocratie, etc. Mais quelquefois, qui ne collent pas aussi aux valeurs des peuples qu'on va approcher ou chez lesquels on va séjourner. Et donc, c'est bien, je pense, d'être dans la déconstruction, comme disait le philosophe Jacques Derrida, et à chaque fois s'interroger. C'est compliqué, mais dans le reportage, ça se fait, dans le roman, ça se fait aussi. Moi, je le revendique. C'est pour ça que je pars beaucoup sur le terrain. Je donne un seul exemple. J'ai fait un roman qui s'appelle L'Enchantement du Monde, qui est un roman sur un peintre de Florence et de Venise. De Venise, au XVe siècle, le peintre Bellini, qui va rendre visite au plus grand ennemi de la chrétienté, qui s'appelle le sultan Mehmed II, ottoman, donc, qui a fait tomber Constantinople, qui est aux mains des chrétiens. Eh bien, pour moi, ce roman historique était l'occasion de parler de Daesh aujourd'hui. On en est loin, pourtant. Eh bien, oui, parce qu'il y a une sorte d'intrigue, justement, sur l'islamisme de l'époque. Évidemment, le romancier peut faire ce qu'il veut. Mais je me suis inspiré de ce que je venais de voir en Irak. Je revenais d'Irak et la frontière iranienne à l'époque. J'étais passé par différents pays du Moyen-Orient, donc il y a 3-4 ans. Et le roman m'a permis d'aller plus loin que le reportage. Donc voilà, c'est un exemple, mais je pense que c'est à continuer, quoi.
Est-ce que vous est-il déjà arrivé d'être censuré dans vos écrits parce qu'un sujet est trop politique ou trop sensible?
Ah oui, dans les derniers jours au Cambodge, nos dépêches, quelquefois, étaient censurées. Il fallait passer par une censure militaire, mais on a des moyens de trouver les bons mots et des façons, quelquefois, il fallait envoyer les dépêches par le Telex, donc il fallait aller à la poste de PTT, et le Telex, c'est quelque chose qui n'existe pas maintenant, mais c'était une machine, je ne sais pas comment décrire ça, où on pouvait envoyer des dépêches sur une bande, et voilà, il y avait une censure dans le PTT pour regarder les dépêches, c'était assez facile de pas avoir des problèmes. Évidemment, on peut sortir quelques dollars de temps en temps pour le censure au Cambodge, pour passer la dépêche. Et puis, si vraiment on avait quelquefois, on avait envoyé aussi les dépêches avec les photos. On est allé à l'aéroport et puis on a trouvé quelqu'un qui allait à Bangkok et puis on a lui donné de l'argent pour aller prendre un taxi pour aller à l'agence Reuters ou l'agence France Presse et délivrer les dépêches. Donc il y a moyen de faire ça. Maintenant, c'est très difficile de censurer parce qu'on peut envoyer les dépêches sur un iPhone, par exemple.
Il y a plutôt moins d'exercices de la censure grâce à la rapidité des moyens de communication.
Oui, je dirais qu'il y a deux types de censure. Il y a la censure militaire qui peut être aussi la censure physique, c'est-à-dire on vous empêche, comme John et moi, on a essayé de le faire à plusieurs reprises, on vous empêche d'écrire, on vous empêche de rapporter, on vous empêche de relater l'information. Donc ça peut être de la menace de mort à l'intimidation. Ça peut être des menaces aussi de vous emprisonner à Bagdad ou ailleurs. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Vraiment, j'ai été arrêté, j'ai été expulsé. On m'a volé une fois mon carnet de notes. Je fais toujours attention. On peut tout me voler, mon sac à dos, je m'en moque. Je veux toujours avoir mon passeport et mes carnets de notes. Parce que le carnet de notes, évidemment, c'est notre mémoire. Il faut faire attention à l'ordinateur, d'ailleurs. Il ne faut pas tout mettre sur l'ordinateur. Et deuxièmement, vous mettez en danger des gens que vous avez interviewés. Donc, le carnet de notes, moi, je dors avec pratiquement. Puis après, une autre forme de censure, qui est une censure générale, qui tient au corpus de la presse. Ça peut être de l'autocensure. Ça, c'est la pire des censures. C'est-à-dire que j'ai peur, ou je vais déplaire, ou on me fait une pression interne au sein d'une rédaction, d'un média, parce qu'il y a un actionnaire qui représente, par exemple, un pouvoir économique, etc., etc. Et puis, dans ce type de censure, que je qualifierais plutôt d'économique ou de politique, il y a la censure aussi indirecte, parce que on peut faire pression sur un média en retirant, par exemple, de la publicité, parce qu'un article peut déplaire. Ben ça, il faut se battre. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, là aussi. Hein. Je mets beaucoup de temps. Enfin, je me suis... encore aujourd'hui, je ne cours pas après les articles. Encore une fois, je suis écrivain et j'ai la chance de pouvoir voyager avec mes livres et de temps en temps mes documentaires. Mais comme j'aime faire du journalisme, je fais aussi des articles. Et je ne vais pas à la guerre pour aller voir la guerre, pas du tout. Je vais sur des théâtres de guerre pour aller voir les gens et voir ce qui se passe derrière la ligne de front. Et j'ai eu la chance que, à chaque fois, je négocie du temps. Au lieu de faire un article en 3-4 jours, je le fais en un mois. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais faire peut-être plusieurs articles en un mois, mais c'est quand même un mois de voyage. Et voilà, après, vous avez dans des journaux des pressions parce que vous allez donc impacter, on va dire, un groupe économique qui est actionnaire du journal ou pas, d'ailleurs, qui fait de la publicité dans le journal. Une compagnie aérienne, une compagnie productrice de pharmaceutiques, donc de médicaments, etc. Et là, je crois qu'il y a... Il y a des lignes rouges très fortes qu'il faut respecter. Et je citais la ville de Karachi tout à l'heure. Karachi, c'est 20 millions d'habitants. C'est une des plus grandes villes du monde dans un pays qui est le Pakistan, 200 millions d'habitants. Malgré le maelstrom, malgré le danger, malgré l'instabilité de ce pays, qui est une puissance nucléaire en conflit larvé contre le frère ennemi de l'ex-empire des Indes, qui est l'Inde, avec le Cachemire interposé, etc., avec des islamistes qui sont là, avec des services secrets qui ont infiltré les islamistes, malgré cela, vous avez une presse extraordinaire. Elle n'est pas toute libre. La presse qui est libre est extraordinaire. Des gens qui se battent pour leur credo, qui se battent pour la déontologie, pour une charte des journalistes. C'est grosso modo ce qu'on a aussi en Grande-Bretagne chez John ou en France ici. Voilà. Donc moi, je suis admiratif de ces gens-là. Je reviens du Mexique. Il y a des journalistes là-bas, malheureusement, qui se font exécuter. Quand on est journaliste, il y a deux professions qui sont dangereuses au Mexique. C'est journaliste et avocat. Alors si vous êtes journaliste femme ou avocate femme, c'est encore pire. L'espérance de vie au nord, sur la Juarez et Tijuana, donc sur la frontière nord, elle est très limitée pour un avocat ou une avocate, un journaliste ou une journaliste. Et malgré cela, vous avez une presse vivace, vous avez une presse qui dénonce aussi l'emprise des cartels, donc du trafic de drogue sur l'État ou sur les polices, la police fédérale ou les polices d'État, des différents États du Mexique. Donc voilà, je crois qu'il faut se battre. On est très, pas orgueilleux, mais on est très sensible à ça, les grands reporters, là, sur tout ce qui est censure, là, la moindre correction de papier. John sera peut-être d'accord avec moi. On se bat. C'est pas parce qu'on pense qu'on va faire la plus belle dépêche du monde, comme disait Denis Tillinac, un autre écrivain et journaliste. Il dit, si on avait du temps, on serait tous des châteaux brillants. Il faut quelquefois faire vite. Donc on se dit, il faut rester humble par rapport à une dépêche ou un article. Mais en revanche, on me corrige, c'est qu'il y a un danger. Et donc, on est très sensible à ça parce qu'on met la déontologie au-dessus de tout. Et ça, c'est important.
J'ajoute à cela, il y a aussi la question des titres qui ne sont pas forcément trouvés en fait, par les journalistes qui ont eux-mêmes rédigé l'article, mais par la rédaction en chef, par les rédactions les titres, quand on est loin, et qui parfois ont donné quelque chose du style... La libération de Phnom Penh, ben ou oui. Des, bon, là on revient sur l'histoire, mais donc vraiment une interprétation qui n'est pas forcément d'ailleurs même dans l'article. Voilà, c'est juste une petite parenthèse.
Oui, je suis absolument d'accord, parce que la chute de Phnom Penh, il y avait quelques journaux français, Le Monde, Libération aussi, qui ont titré les journaux la ville de Phnom Penh libérée, ou Phnom Penh libérée. Donc, c'était pas vrai, dans un sens que c'était libéré de la guerre, mais il y avait un génocide qui était en train de commencer. Et voilà, ça, c'est les titres des journaux. Mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier, mais aussi qu'il parle des. des mots des journalistes en Mexique et dans les autres pays, tout ça, c'était des journalistes locaux. Et là, c'était très important de se souvenir parce qu'à Bayeux, où je vais chaque année, il y a un festival de correspondants de guerre. Et là, il y a un monument à tous les journalistes qui étaient du monde entier, qui étaient tués depuis 1944, depuis le débarquement. Et là, il y a des stèles avec un nombre de noms, des centaines. Et chaque année, il y avait, je ne sais pas, encore une centaine, je ne sais pas. Mais il faut réaliser qu'un tiers des journalistes qui sont tués, qui sont morts en service, un tiers sont les journalistes qui sont morts dans la guerre, au combat. La plupart des journalistes sont morts parce qu'ils sont tués par les gangs comme les cartels au Mexique ou dans des États comme les Philippines parce qu'ils sont contre le gouvernement, quelque chose comme ça. Donc, le danger pour les journalistes, ce n'est pas seulement la guerre, c'est journalier dans quelques pays et il faut reconnaître le courage.
Juste, on n'a plus tellement de temps, mais une question qui me vient. Donc, moi, je n'ai pas du tout été, je ne suis pas reporter de guerre ni en reporter, mais j'ai eu l'occasion parfois d'être de vivre en tant que journaliste ou pas d'ailleurs des événements très très forts comme la chute du mur de Berlin. Et moi, personnellement, ce dont je me souviens, c'est que on sent qu'on vit quelque chose d'absolument déterminant et qu'il y a un point de bascule. Mais on n'a pas forcément le recul. On est vraiment au cœur de l'événement et il est finalement assez difficile à raconter, sauf si on raconte simplement ce qu'on a autour de, ce qu'on voit, ce qu'on vit autour de soi. Et je voulais savoir si, avec le recul sur toutes les années que vous avez passées à vivre de tels événements et donc des événements très graves comme tous ces conflits, ces génocides, et quel regard vous portez en fait sur l'évolution du métier par rapport à ça ? C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose que vous retenez sur les 30 années ou les 40 années de grands reportages dans votre façon à vous de travailler et de relater les événements?
Je crois, d'une part, quand on est tout d'un coup au cœur de l'histoire, ça se tient à Tiananmen, la chute du mur de Berlin, ou quelquefois d'autres grands événements, la chute de Saddam Hussein en Irak, etc., on a à la fois le plan serré, c'est-à-dire il faut voir tout le monde, il faut essayer de comprendre, etc., de vérifier l'information, de vérifier ou d'avoir un point de vue contradictoire. Moi, chaque fois, j'ai couvert une guerre, j'en ai couvert donc une vingtaine et j'ai séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla. Je suis allé voir l'autre partie. C'est 95% ou 90%, c'est faisable. C'est dangereux, ça prend du temps. Mais quand je suis en Israël, je vais voir les Palestiniens. Quand je suis dans les territoires palestiniens, même si je n'écris que sur les territoires, je vais aller voir les Israéliens. Ça vous donne une autre focale, un autre angle, etc. Et puis après, vous avez le plan large. Et je crois quand même que très vite, quand on est grand reporter, c'est mon directeur de thèse qui me disait, ben, quand on fait une thèse, quand on devient prof, par exemple, on va enseigner à chaque fois, chaque année, pour 20, 30 élèves, ou un peu plus quand on est en fac. Quand on est journaliste, tout d'un coup, à 20 ans, 25 ans, on informe 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes. La responsabilité que vous avez, et ça vous porte, ça vous incarne quelque part, ça vous oblige. Et ça, c'est très bien en même temps. Et ce plan large, honnêtement, on l'a assez vite. On comprend qu'on est dans un turmoil, on est dans un événement qui est important, qu'on a prédit, parce qu'on l'a vu arriver. Alors, quelquefois, il y a des effets de bascule très rapides, mais non, quelquefois, c'est souvent porté par d'autres événements. Et sur l'évolution du métier, je dirais qu'on est dans des dangers de plus en plus patents, parce qu'auparavant, comme d'ailleurs les humanitaires, les sans-frontières, les médecins, les journalistes étaient protégés. Ils sont à l'extérieur, ils viennent témoigner, etc. Moi, j'étais encore... Il y a peu de temps en Amazonie pour un livre. Je suis fasciné de voir que les plus grands trafiquants vous reçoivent parce qu'il y a une part de témoignage qui, pour eux, est importante, même au fin fond de la jungle. Et puis, il y a une part d'ego aussi de leur part que de répondre aux questions de l'écrivain ou du documentariste qui arrive. Mais en même temps, il y a du danger. Et le danger qui est extraordinaire là, depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est une arme terrible que vous avez sur vous, en particulier... qui est le téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le ciblage des journalistes. On va recevoir des obus sur un champ de bataille, mais on peut y échapper. C'est assez binaire hein, quand vous êtes sur un champ de bataille ou avec une guérilla. On sait à peu près d'où vient le mal. De plus en plus, maintenant, ce sont vos accompagnants, ça peut être un douanier à la frontière syrienne, ça peut être un policier à Kaboul qui vous dénonce. Il dit, tiens, au fait, il y a John Swain qui arrive, ou il y a Patrick, ou il y a Laura, ou il y a Isabelle, qui est mexicaine, ou espagnole, ou qui est allemand. Et vu la nationalité, ça coûte 1 million, 2 millions de dollars de rançon, donc tu me donneras 5 000 dollars. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, vous arrivez à Bagdad ou à Kaboul, à la frontière syrienne, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une sorte de marchandisation de notre métier qui fait qu'on est, on est impacté. C'est assez dangereux, tout se sait. Et très souvent, pour les otages, on parle malheureusement très très peu des otages locaux, des Syriens, des kidnappés irakiens, des kidnappés afghans. Si vous êtes médecin à Bagdad, vous êtes obligé de consulter avec deux gardes du corps. On parle très très peu de ces gens-là qui se font enlever. On parle beaucoup évidemment des étrangers. Mais en tout cas, quand vous êtes étranger, il y a de temps en temps une chance d'avoir une rançon. Mais alors, le nombre d'intermédiaires, très souvent, ça monte à 50% de la somme qui est négociée, qui passe par les intermédiaires pour les libérations. Alors évidemment, ça rend le métier d'autant plus difficile, mais je crois qu'il faut continuer à aller sur le terrain, parce que c'est important de rapporter, même si c'est dangereux. Il faut essayer de limiter les risques, on va dire, quitte à ne pas s'aventurer dans des maquis, y compris urbains. Je parlais de Karachi tout à l'heure, mais c'est pareil de Kaboul ou de Bagdad aujourd'hui, ou de la Syrie, et du Kurdistan syrien ou même irakien. Il faut faire attention, mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut quand même y aller, il faut aller voir. Je ne sais pas si John est d'accord.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux juste ajouter cette histoire d'iPhone... Et tout ça, si on part sur le terrain maintenant, moi j'aimais beaucoup de voyager tout seul. Je n'aimerais pas d'être avec toute une caravane de journalistes. Et je pouvais faire ça à l'époque où j'étais, dans les années 70, 80, même 90. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment difficile dans les guerres. J'ai découvert la guerre d'Irak et tout. Il y a une caravane de télévision et tout ça. Donc, on ne peut pas échapper, vraiment faire quelque chose tout seul qui est différent de ce qui était déjà plu dans la presse, parce que je travaille pour un journal le dimanche, qui était déjà plu dans la presse journalière. Et c'était vraiment difficile. Et en plus, avec le sacré téléphone là, mobile, moi, j'ai passé une année en Thaïlande après la guerre de Chine. J'avais dans une année, mon rédacteur en chef m'avait appelé par téléphone une fois. Dans une année. J'ai utilisé le Telex. J'envoie les dépêches. Je dis, allez, ce que je vais faire cette semaine, c'est de partir en Birmanie légalement pour voir les Karen des rebelles en Birmanie contre le gouvernement de Ne Win à cette époque. Et je vais passer une semaine là. Et je n'ai pas reçu un message de vous, je vais partir cet après-midi. Alors, quelquefois, il ne répondait pas parce qu'il voulait permettre sur le papier, c'est une très bonne idée parce que peut-être je ne reviens pas et donc il serait coupable. Ça, c'est typique. Il disait toujours, prenez pas des risques inutiles. C'est une bonne expression pour protéger la rédaction. Mais voilà, maintenant, on est bombardé par le rédacteur en chef qui peut téléphoner deux, trois fois par jour, disant, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Il ne réalise pas qu'il faut avoir confiance dans le journaliste. Sur place, et il faut le journaliste sur place, le correspondant de guerre, il faut croire qu'il faut avoir confiance dans ce qu'il voit et écrire ça.
Oui, très bien. Vous voulez dire un dernier mot, puis après, je pense qu'il faut qu'on...
C'est cette fascination qu'on peut avoir aussi pour des mouvements de guérilla. Bon, pour ma part, je suis parti assez jeune pour la presse britannique et Libération en Afrique de l'Est pour une guérilla qui s'appelait le Front Populaire de Libération de l'Érythrée. L'Érythrée, c'est une province de l'Éthiopie qui s'est battue pendant 30 ans pour avoir l'indépendance. C'est une guerre qui a fait quand même 300 000 morts. Et moi, j'étais fasciné par cette petite guérilla progressiste, parce qu'on disait qu'il y avait un tiers des femmes qui étaient des combattanteux, un tiers des combattants, pardon, qui étaient des femmes, donc des combattanteux, effectivement. On leur enseignait plein de choses, etc. Et donc, une guérilla qui était considérée comme une guérilla plutôt antidictatorial, qui se battait contre le pouvoir du Négus, l'empereur d'Éthiopie. Je suis arrivé là-bas, bon, ça a pris des mois quand même pour arriver en passant par le Soudan en Érythrée, j'ai rencontré le chef de la guérilla, FPLE, donc, qui s'appelait Isaias Afewoki. Donc j'ai fait des interviews pour Libération, pour la presse britannique, etc. Et puis, quelques années plus tard, l'Érythrée est devenue indépendante. C'est un des derniers États de l'ONU, donc à être indépendante. Après, il y a eu le Sud-Soudan, et puis ces États des Balkans. Et Isaias Afewoki, vous pouvez regarder ce qu'est l'Érythrée sur les standards des plus grandes organisations des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters sans frontières, fait partie des trois ou quatre pires pays au monde, avec la Corée du Nord, au niveau des droits de l'homme. Et Isaias Afewoki, qui était donc le chef de la guérilla progressiste, est devenu un dictateur et un des pires dictateurs de l'Afrique, si ce n'est au monde. Et puis, alors, pour les guérillas, toujours, une autre guérilla qui me fascinait, où j'étais extrêmement déçu, c'est celle du Sri Lanka. La guérilla du Sri Lanka, une des meilleures au monde. Et au niveau militaire, au niveau approvisionnement financier, etc., l'organisation de la diaspora, etc. Et je suis allé deux fois avec eux, donc je dis ça modestement, c'est assez rare d'y aller. Et je leur avais dit la dernière fois que j'y suis allé au Sri Lanka, donc avec la guérilla, je vais m'exfiltrer de vos zones. C'était un peu compliqué, il fallait rentrer en moto de nuit en passant par des champs de mines avec un curé Sri Lankais, et on passait donc par des petits boyaux, etc. Puis on arrivait avec la guérilla, on ne sautait pas sur les champs de mines. Et pareil pour ressortir. J'avais dit à la guérilla, je prendrai l'avion de la Croix-Rouge de mardi prochain. En principe, il y a des blessés à bord. Moi, j'y serai. Vous ne toucherez pas le petit avion Cessna à bimoteur. Non, t'inquiète pas, Olivier, pas de problème. T'es resté avec nous assez longtemps, etc. Je rate l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion de la Croix-Rouge de mardi a été descendu. Alors j'ai fait passer le message auprès de la guérilla, pourquoi vous avez descendu cet avion? Il y avait des blessés à bord, accessoirement j'aurais dû y être. Il dit, oui, mais parmi les blessés, il y avait 2-3 militaires, donc tout le monde était un objectif militaire, dont toi. Alors donc là, évidemment, j'étais très déçu, mais ma déception venait surtout du fait que la guérilla recyclait même les blessés enfants, les enfants qui étaient blessés, étaient recyclés, mis dans des camps au fin fond de la jungle, et on faisait en sorte qu'ils se marient très jeunes, à 14-15 ans, pour pouvoir faire une deuxième génération d'enfants. Donc un aveugle se blesser, un amputé, se marier avec un amputé, etc., ou une amputée. Et voilà, donc tout ça a été planifié de la part de cette guérilla. Et voilà. Donc il faut aussi raison garder, essayer de prendre la distance, de garder la distance, parce que sinon, on va de déception en déception. Et même si on a des sympathies pour un mouvement, même si on a envie de s'engager, il faut y regarder par deux fois. Il n'empêche qu'après, on peut écrire ce qu'on veut, quoi. C'est ça la beauté du métier.